Quand j'imaginais le départ de mon père pour la France, je le voyais jeter un dernier coup d'œil sur Alger la Blanche depuis son bateau, le cœur serré, un peu comme dans la chanson de Slimane Arzem.
J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village.
Quand t'es parti, est-ce que tu t'es dit ça va me manquer l'Algérie?
Bah pas du tout.
Ok, bon, j'avais tout faux.
Ça, jamais je me suis posé la question de dire que ça va me manquer.
Donc t'es
quoi,
t'avais
rien.
Pas attaché, t'avais rien, c'est pour ça.
Non. Moi, ce qui me manquait, c'est de l'air, de voir du pays. J'allais pas avoir de la nostalgie avant d'être parti. Voyons. Non, j'étais contente de partir et j'ai pas regardé en arrière. Hein.
Donc l'idée de l'exil douloureux, c'est un mythe.
Pas pour tout le monde. Moi, j'étais. C'est quand même différent d'un jeune de 20 ans, 21, 22 ans, de partir pour faire des études, voir du pays, et quelqu'un qui quitte sa famille, qui quitte sa femme, ses enfants et tout, etc., pour aller travailler à l'usine, ou à la mine, ou dans les fonderies de l'ennui.
Les personnes dont parle mon père, c'est eux.
Les Algériens arrivent les premiers, majoritairement originaires de Kabylie. Ils travaillent pour envoyer de l'argent à leur village. C'est une immigration ouvrière dite de va-et-vient. Après la guerre d'Algérie, ils retrouvent la Kabylie très appauvrie. Une grande partie d'entre eux décident alors de revenir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est le début des regroupements familiaux.
Je vais galérer peut-être pareil que beaucoup, mais je ne vis pas cet exil ou ce départ comme un arrachement à ma terre natale, à ma famille. Mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est deux trajectoires complètement différentes. Même si on a des points communs, évidemment. On n'est pas dans notre pays, on va être confronté à des regards, à des paroles désagréables, etc. Bien sûr.
L'assassinat d'un conducteur d'autobus par un immigré provoquait une vague d'agitation raciste. Les travailleurs algériens en nombre important dans les usines de la région marseillaise voyaient leur sécurité menacée. Des attentats coûtaient la vie à plusieurs d'entre eux.
C'est tout, les Algériens ont commencé à se déchirer entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait la région de Kabylie s'est rebellée contre le pouvoir central.
L'Algérie maintenant, et une réunion de l'Assemblée d'Alger ce matin, M. Ben Bella a pris les pleins pouvoirs pour faire face à la dissidence de Kabylie.
Il y a des historiques de la guerre de libération qui ont essayé d'installer un peu la démocratie, la liberté dans ce pays, mais qui n'ont pas réussi parce que la junte militaire avait tout régenté. Et voilà, ça recommence, quoi. Ce qui est le drame de l'histoire, c'est que l'armée française est partie, donc en 62, et en 63, c'était l'armée algérienne, l'ANP, qui venait ratisser les villages dans les mêmes conditions que l'armée française. Moi, je me souviens de 63, l'armée algérienne venait fouiller la maison, comme l'ont fait les militaires français. Parce que c'était la Kabylie, qu'il y avait une rébellion en Kabylie. Donc ils venaient chercher les rebelles kabyles qui se rebellaient contre le pouvoir central du FLN Alger.
Sur le terrain, la Kabylie est pratiquement toujours encerclée par les troupes du gouvernement.
Un escadron de gendarmes algériens appuyé par des éléments de l'ANP, l'Armée Nationale Populaire, a pris position sur la route qui relie Alger à Tizi Ouzou, à l'intérieur du barrage, côté kabyle. Par conséquent, les insurgés continuent de mettre en place un dispositif de défense d'artillerie lourde.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, il faut quand même dire aussi les choses qui se sont bien passées. L'Algérie indépendante, si tu veux, après l'indépendance, ils ont construit pas mal de lycées. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans un lycée tout neuf, flambant neuf, où c'est la première fois que j'ai eu accès à des douches où je pouvais prendre une douche tous les jours, où je pouvais me brosser les dents pour la première fois. Je pouvais dormir dans un endroit chaud, hors d'eau et hors d'air, comme on dit. Donc j'étais au lycée à 20 km de l'endroit où je vivais.
18, 19 ans, t'as ton bac.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe là?
comme je t'ai dit, j'avais déjà l'intention de partir. Pour partir d'Algérie à l'époque, 74-75, c'est pas les Français qui nous ont empêchés de rentrer en France. C'était l'administration algérienne qui t'empêchait de sortir. Alors accroche-toi, pour sortir d'Algérie, il fallait avoir le passeport. Et pour faire un passeport, c'est la croix et la bannière. Tu n'as pas droit, parce que personne ne sort. Quand tu as le passeport, il faut avoir ce qu'on appelle l'attestation de sursis du service militaire. Parce que tout le monde faisait son service militaire 2 ans. 2 ans de ta vie, aller dans une armée qui est là juste pour te mater, quoi. Il fallait avoir une autorisation de sortie du territoire national. 3 documents pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas de piston, qui n'a pas de truc, etc., c'est du quasi impossible. Donc moi, ce que j'ai fait après le bac, je suis allé, au lieu d'aller faire un truc d'ingénieur, de truc, je me suis inscrit dans un truc d'administration. Parce que là, tu rentres dans le cœur
du réacteur.
Et une fois que j'ai eu ces trucs-là, c'était le Graal, c'était le passeport pour partir. C'est-à-dire, le passeport, c'est que là, je suis parti.
Comment, à quel moment, à 20 ans, tu te dis « je vais quitter mon pays ?» Je vais quitter ma famille, je vais aller dans un pays que je connais pas et je vais vivre là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?
C'est pas totalement juste ce que tu dis, de dire je vais dans un pays que je connais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Algériens allaient et venaient en France depuis belle lurette. On connaissait la France, moi je connaissais Paris, je connaissais la France sans avoir jamais mis les pieds. C'est que, parce que toute ma scolarité, elle s'est faite sur des programmes français. C'est-à-dire que la géographie, on étudiait la géographie de je sais pas moi, du programme de la Haute-Savoie. Tous les programmes étaient des programmes des académies françaises. C'est-à-dire qu'on connaissait la France, on la connaissait très bien, d'une manière scolaire. Donc c'est pas du tout... Et Paris, on la connaissait par cœur, parce qu'il y avait beaucoup de gens d'émigrés du village, dont mon frère d'ailleurs, au-dessus de moi, et qui était à Paris, à Marseille, etc. Donc on connaissait très très bien la France.
Mais tu t'es pas dit à un moment, ceux qui venaient fouiller ma maison et essayer de tuer mon oncle, je vais les retrouver à Paris ? Tu t'es pas dit c'est le pays des colons ?
Non, parce que si tu veux, les choses ne se présentaient pas comme ça, pas uniquement pour moi, même pour le peuple algérien. C'est que après l'indépendance, les quelques moments de 62, 63 où c'est un peu trouble et tout, etc. Mais sinon, les immigrés continuent d'arriver, la main d'œuvre algérienne continue d'arriver en France.
On peut dire qu'il y a en France une population étrangère de l'ordre de 2 millions d'habitants. Et la population active est environ de 1 200 000.
Non compris les Algériens.
Non compris les Algériens qui actuellement ne figurent pas parmi les étrangers, mais figurent parmi les populations qui peuvent librement venir sur le territoire national.
Le gouvernement français continue encore à envoyer ses agences de recrutement de travailleurs algériens, etc. C'était pas une coupure brutale, etc. C'est en 74 qu'ils ont arrêté l'immigration.
Les 3 documents.
Oui.
Le ticket d'or.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je me casse.
Comment ça, tu te casses ?
Ben, je pars. Je prends mon billet.
Mais t'annonces pas la décision, par exemple, à ta famille ?
Mais bien sûr que si, je me suis pas enfui. Ah non, non, non.
Alors comment ça se passe ? Comment t'annonces à quelqu'un, à ta mère, que tu vas partir ?
Ma mère, je lui ai annoncé, mais alors d'une manière... Comme si je lui disais, bon, je vais aller jouer au foot comme je le faisais. Je vais au cinéma ou un truc comme ça, quoi. Un soir, je dis, bon, la semaine prochaine, je pars à Paris.
Tu ne l'avais pas prévenu avant ?
Non. Jamais prévenu personne à l'avance. Je suis orphelin de père. Ma mère était analphabète. Donc, elle ne pouvait pas contrôler, mais si je travaillais bien ou si je ne travaillais pas bien à l'école ou au lycée, etc. Mes frangins, ils étaient loin, chacun de son côté. Donc, je me suis fait un peu tout seul.
Donc, tu dis au revoir. Alors, tu dis au revoir où ? À la maison, au village ?
Je dis au revoir à ma mère, à ma famille. Et puis, avec des potes. À l'équipe de foot du village, on a fait la fête la veille. Et puis dans la soirée, il y en a un qui était un peu plus frustré que les autres, que je parte et que lui ne part pas, etc. De rage. Et bon, il avait un peu bu aussi, comme moi, comme tous. Donc, il a éteint sa cigarette sur mon bras. C'est-à-dire qu'il m'a brûlé avec sa cigarette. Et tu vois, je vais te marquer, quoi. Tu pars, je te punis.
Et le jour de ton départ, est-ce que tu te souviens de ce qu'elle t'a dit, ta mère, en partant ?
Ah, franchement, j'ai pas gardé des souvenirs de ce qu'elle m'a dit en partant.
Juste qu'elle pleurait un peu.
Ça, elle a pleuré avant.
Ah, avant.
Elle a pleuré avant quand je lui ai dit que je partais. C'est là qu'elle a pleuré, c'est pas le jour du départ. Après, je sais pas si elle a pleuré après. Imagine que. Il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui pour rappeler le lendemain de mon arrivée en France pour dire comment ça va. Il n'y avait pas de téléphone.
Donc elle pouvait pas, elle avait aucun moyen de savoir si tu étais bien arrivé.
Non.
Jusqu'à ce que...
Non, courrier.
Courrier.
On écrivait des lettres à ce moment-là.
Mais elle ne savait pas lire.
Il y a toujours quelqu'un qui sait lire. Il y a ma belle-sœur qui sait lire. La lettre, elle met un certain temps à y arriver. C'est pas...
Tu lui as écrit une lettre pour lui dire...
J'ai écrit une lettre pour que j'étais bien arrivé.
Tu te souviens de cette lettre ?
Oh non, je ne me souviens pas. C'est une formalité. C'était pas... on ne mettait pas de symbolique un peu dans tout ce qu'on faisait, etc. Ça se faisait naturellement, etc. C'est que... Il n'y a pas de chichi, quoi. Bon, écrit, bon, voilà, quelques mots pour dire, voilà, je suis bien arrivé, etc. J'ai vu mon frère, etc. Tout va bien. Même si ça ne va pas bien, on dit tout va bien, etc. Ben oui, attends, il ne faut jamais se désespérer, ceux qui sont restés. Tout va bien, même si rien ne va. Mais comme, c'est comme ça, c'est un état d'esprit un peu qui chez tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pleure pas sur notre sort, quoi. Tout va bien. On est debout, tout va bien.
Déjà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu quittes Alger ?
Quand je quitte Alger ? Vivement que j'arrive à Paris. Parce que je vais te dire, tant que t'as pas débarqué, tant que l'avion n'a pas décollé, t'es pas encore parti. Avec l'administration de l'époque. Tant que l'avion n'a pas décollé, t'es pas encore parti. Donc moi, quand j'ai débarqué à Marseille, je suis sorti de l'aéroport de Marignane. Là, j'ai compris que j'étais en France.
Et alors, comment ça s'est passé dans l'avion ? Quand tu rentres dans l'avion, t'as jamais pris l'avion ? Tu fais comme si tout était normal.
Non, c'était pas normal. Ah non, il y a l'appréhension, attends... tu prends l'avion, je sais pas moi, 20 ans passés, je serrais les fesses au décollage, au moment du vol, à l'atterrissage, et même après. Non, c'est pas... C'était assez cocasse, mais Mais c'est pas ça qui prenait le dessus dans le ressenti, le truc. C'est surtout quand est-ce que j'arrive, quoi.
À ce moment-là de l'entretien, il y a quelque chose que je comprends pas. Ça vient d'où cette idée d'exil douloureux? Moi, j'ai toujours grandi avec l'idée que mon père était un exilé, que s'il retournait en Algérie, il irait en prison. Je l'ai quand même pas inventé. Mais si on t'avait dit que tu reviendrais jamais, tu serais parti quand même?
Ouh, c'est une question difficile, ça. Je peux pas répondre. Je sais pas répondre à cette question. Je sais pas. Franchement.
Alors je lui pose pas la question par hasard. C'est parce que c'est ce qui s'est passé. Ça fait 42 ans que mon père n'est pas retourné en Algérie. En fait, je pense que depuis le début, je me concentre sur le mauvais départ. Ce n'est pas quand il quitte l'Algérie à 20 ans qu'il devient un exilé. Tout se joue plus tard, en 1980, lors du printemps berbère. Mais on y arrive.
Mon pays, je l'ai toujours aimé. Après, quand je suis devenu adulte, conscient, etc. J'ai milité d'ailleurs pour qu'il soit meilleur, pour la démocratie, contre la dictature, etc. Ça m'a valu quand même 10 ans d'exil. Donc à ce moment-là, c'est un vrai, parce que j'étais... insoumis au niveau de, c'est le cas de le dire, à l'époque qu'on vit là aujourd'hui, je voulais pas faire mon service militaire et j'étais engagé dans un parti politique clandestin. Donc à partir de 80, avec le mouvement culturel berbère où je suis allé pour la dernière fois d'ailleurs, avril 80, où la Kabylie s'est soulevée pour des questions culturelles, linguistiques, mais c'est aussi social, démocratique, etc. Donc je suis retourné en tant que militant et puis après des amis à moi ont été arrêtés donc en avril 80, donc il y avait mon nom, mon prénom, tout etc. dans leurs affaires quand ils les ont attrapés. Et j'étais obligé de partir rapidement parce que sinon je risquais d'être arrêté et en venant de France. Vivant en France, aller là-bas pendant cette période-là, tu te fais attraper dans le mouvement de contestation, etc. T'es parti pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de prison. Donc je me suis sauvé in extremis pour ne pas tomber entre les mains de la police politique, de ce qu'on appelait à l'époque en Algérie la sécurité militaire, qui faisait peur à tout le monde. Donc je ne pouvais plus retourner, du coup j'avais plus de passeport. Je ne pouvais plus refaire mon passeport au consulat d'Algérie, vu que quand tu es recherché là-bas, tu n'as plus de passeport. Donc pendant 10 ans, jusqu'en 91, avec une loi d'amnistie qui a amnistié tout le monde, et surtout avec l'entrée du président Boudiaf ils ont tout effacé, donc là je pouvais y retourner. Mais après, j'avais plus envie après. Moi j'ai perdu ma mère en 86, je ne pouvais même pas aller à son enterrement. Tu vois, donc ça marque, si tu veux, ça laisse des traces.
Mon père me dirait sûrement qu'il n'y a pas de symbolique. Mais je pense que la rupture est là, quand son pays, l'Algérie, l'empêche d'enterrer sa mère. C'est à ce moment-là que commence son exil. Alors comme beaucoup d'exilés, son Algérie, il l'a fait vivre en France.
J'aime mon pays, j'aime ma langue maternelle, le Kabyle. Après, je me suis investi dans l'associatif pour justement la reconnaissance et la promotion de cette culture et de cette langue. Donc, si tu veux, c'est souvent une question qui revient avec des gens que je connais qui viennent de là-bas. Ils ne comprennent pas comment... en même temps, je rentre plus. Ça fait 42 ans que je n'ai pas mis les pieds. Je n'y vais plus. Et en même temps, il voit que j'ai un attachement et un engagement pour cette culture, pour cette langue, etc. est extraordinaire, c'est-à-dire que eux ne font pas. Donc, ils sont complètement désorientés. Pour eux, c'est contradictoire, quoi. Pour moi, non. Tu me mets sur la Lune, j'aurai toujours mon logiciel avec moi. C'est-à-dire, mon lieu de naissance, ma langue, mes trucs, etc. Tu peux aller sur Mars, pareil. Donc, je suis bien. Je regrette pas du tout d'être parti. J'aurais pu rentrer, je peux même rentrer aujourd'hui si je le voulais, mais j'ai aucune nostalgie. Je pense que le seul truc qui me manque, si je peux te le dire aujourd'hui, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis dans cet entretien, c'est que la seule personne qui peut me faire rentrer en Algérie aujourd'hui, la seule personne qui peut m'emmener en Algérie, etc., c'est toi, ma fille, pour juste, peut-être une fois, pour te montrer où je suis né. Ça va peut-être répondre à quelques questions que tu ne t'es pas posées ou que tu vas me poser, etc. Allez, une petite semaine, pas plus, parce qu'après, j'ai envie de me sauver.
Je ne sais pas si ça sera si simple que ça, mais chiche.
L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore. Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.